en tant que chrétien, en tant qu'église évangélique, nous croyons que la réussite, la prospérité, la santé de nos vies, de notre église, sera en fonction de notre attachement à la Bible cette année, en 2025. Mais je pose la question, est-ce raisonnable en 2025, c'est-à-dire presque plus de 2000 ans après Jésus-Christ, est-ce encore raisonnable d'être si attaché que ça à la Bible, à la parole de Dieu? N'est-ce pas un livre démodé? C'est la question qu'on va se poser pendant ce mois de janvier. Nous allons répondre à une série de questions que les jeunes et les moins jeunes peuvent avoir au sujet de la Bible et son contenu, sa véracité. Alors ce matin, la question, la Bible est-ce un livre de fake news? Et dans cette série, on va s'appuyer sur une expo qui a été faite à destination de la jeunesse. Plusieurs d'entre nous, nous sommes impliqués dans une association qui s'appelle le Centre français de culture biblique. Et donc, vous pouvez avoir un résumé de ces messages déjà affichés sur les murs. Mais ce matin, j'aimerais traiter cette question. La Bible, est-ce un livre de fake news? Vous savez qu'avec Internet et Photoshop et la prolifération, la surabondance des infos de nos jours, les fake news, les infox, c'est un grand sujet d'actualité. Mais ce n'est pas forcément une chose nouvelle. Les fausses informations, les fake news, se diffusaient même à l'époque biblique. Donc pour introduire ma réflexion ce matin, je vais vous lire quelques versets en 2 Thessaloniciens. Voilà ce que dit Paul. J'affiche, il y a beaucoup de citations ce matin, c'est un peu particulier, mais vous pouvez tous suivre sur l'écran. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Ici, Paul avertit contre une infox, une fake news, que Jésus sera déjà revenu. L'avènement a déjà eu lieu, et ce n'était pas le cas. Et donc, il appelle les Thessaloniciens au bon sens, ne pas se laisser facilement ébranler dans votre bon sens, ne pas se laisser troubler, ne pas se laisser séduire. Alors, vous voyez, la Bible elle-même met en garde contre les fake news, mais pour beaucoup de nos jours, beaucoup regardent la Bible elle-même comme étant plus ou moins un livre de fake news. Les fake news, souvent, il y a un part de vérité, mais il manque le contexte, c'est exagéré, c'est pour créer une sensation. Donc beaucoup voient la Bible elle-même comme un livre pas fiable, voire même une œuvre complotiste de la part de l'Église des premiers siècles pour asseoir leur pouvoir dans l'Empire. Ou grosso modo, beaucoup pensent que la Bible serait le produit de ce jeu qui s'appelle le téléphone arabe ou d'autres versions, le jeu du téléphone, où on transmet une phrase à son voisin et ça fait le tour, on chuchote et ça fait le tour, et puis on compare la phrase d'origine et la phrase finale. Donc le gâteau d'anniversaire était excellent, à la fin devient le garagiste à remplacer le pot d'échappement. Et on rigole parce que c'est tellement différent. Et moi, quand j'ai joué ce jeu avec des ados, j'ai vu que parfois les erreurs se glissent de manière inadvertante. C'est parce que les conditions sont, on chuchote dans l'oreille, c'est pas facile. Et donc, des fois, c'est par inadvertance. Des fois, c'est exprès. Hein. J'ai vu des ados carrément changer pour tout. Et bon, ce qui peut arriver aussi la question, est-ce que c'est ce qui est arrivé dans le texte biblique, c'est-à-dire la phrase d'origine, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, c'est ce que nous avons aujourd'hui, mais la phrase d'origine n'avait rien à voir avec ça, ou idem pour beaucoup de versets de texte biblique. Ça, c'est la question, et c'est beaucoup ce que les gens croient. Donc, Dan Brown, avec le célèbre Da Vinci Code, c'était une des grandes thèses du livre. La Bible a évolué à travers d'innombrables traductions, ajouts et révisions. L'histoire n'a jamais connu de version définitive du livre. Il y a une part de vrai dans tout ça. De manière un peu plus érudite, il y a un spécialiste des manuscrits bibliques, Bart Ehrman, c'est le grand spécialiste de nos jours. Son parcours est intéressant puisqu'il a fait tout un parcours d'éducation, de diplôme évangélique dans les meilleures facultés évangéliques pour ensuite abandonner la foi chrétienne et devenir athée. Donc, il parle aussi en connaissance de cause. Donc, il dit lui-même, non seulement nous n'avons pas les originaux, mais nous n'avons pas les premières copies des originaux, nous n'avons même pas de copies des originaux, ni de copies des copies des copies des originaux. C'est plus ou moins vrai ce qu'il dit, peut-être pas la dernière phrase, mais c'est vrai que nous n'avons pas les originaux. Mais il dit ça pour troubler votre foi, dire du coup la Bible, on est loin de ce que Jésus aurait vraiment dit. D'ailleurs, le titre de son livre, Jésus ne l'a pas dit. À ces affirmations du monde un peu érudit séculier, s'ajoutent les apologètes musulmans qui aussi vont dire la même chose concernant la Bible. Donc ici, dans son livre L'histoire du texte coranique, il parle de l'Église orthodoxe, donc l'Église qui a surtout côtoyé l'Orient. Il y a l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église protestante, mais ici il parle de l'Église orthodoxe. Étant la secte, donc c'est le point de vue musulman, étant la secte qui a fini par établir sa suprématie sur toutes les autres, il s'est opposé avec ferveur à diverses idées qui circulaient. Donc ces idées, c'est ce que nous appelons hérésie, contre la Trinité ou la personne de Jésus-Christ, mais le point de vue musulman, l'Église s'est opposée avec ferveur à diverses idées qui circulaient. Dans chaque cas, cette secte, celle qui allait devenir l'Église orthodoxe, a délibérément corrompu les Écritures afin de refléter ses propres visions théologiques du Christ, tout en démolissant celles de tous les autres sectes rivales. Donc la Bible serait une corruption de l'original pour défendre certaines idées comme la Trinité ou la divinité de Jésus-Christ. Donc, autant côté certaines religions, autant côté un peu séculier, on entend la même chose, que la Bible a été tellement modifiée au fil du temps qu'aujourd'hui, c'est un livre de fake news. Quelle réponse apporter à ces idées qui sont devenues majoritaires dans les sphères académiques et médiatiques et de nos jours? C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Daniel Wallace, il est directeur du Centre d'études des manuscrits du Nouveau Testament. Ils ont le projet de numériser tous les manuscrits bibliques qui existent. Ils avancent bien. Lui, il encourage les chrétiens, je trouve intéressant, à éviter deux extrêmes concernant le texte biblique que nous avons entre nos mains aujourd'hui. Un extrême serait un scepticisme radical qu'on trouve dans plusieurs de ses citations, qui complètement déstabilise notre foi. Il encourage aussi à éviter une certitude aveugle, naïve, quant au texte biblique, qui peut laisser une foi fragile, qui n'a pas confronté les défis, les obstacles, les questions qu'ils peuvent avoir autour des manuscrits de la Bible. Parce que encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont étonnés d'apprendre que la Bible telle que nous l'avons, cette Bible, en fait, ça n'a pas été livré sur un plateau doré par l'Amazon Prime Céleste dans la boîte aux lettres de l'apôtre Paul et conservé aujourd'hui dans un musée. Ça c'est pas fait comme ça. Ça s'est fait à travers un processus où effectivement nous n'avons pas les originaux, nous avons les manuscrits et nous essayons d'arriver vers le texte biblique. Nous croyons que la Bible a été inspirée dans les textes d'origine, dans les manuscrits d'origine, mais nous ne les avons pas. Alors, comment faire? Et donc il y a cette réflexion, ce conseil avant que on voit les points ce matin de C.S. Lewis que je trouve très intéressant, très sage. Il dit dès que le miracle entre dans le domaine de la nature, il obéit à toutes ses lois. Le vin miraculeux enivrera. La conception miraculeuse conduira à la grossesse avec ses peines, ses douleurs. Les livres inspirés subiront tous les processus ordinaires de corruption textuelle. Le pain miraculeux sera digéré. Donc il rappelle que oui, nous croyons au miracle de l'inspiration, mais ça n'empêche pas le travail, un défi, une réflexion, des obstacles pour ensuite gérer la réalité. Donc Dieu a fait plein de miracles, mais ça n'empêche pas Il a ressuscité Lazare, mais Lazare aurait pu tomber remalade. Donc, ce qui n'empêche pas le miracle d'origine. C'est ce que nous croyons par rapport à la Bible. Elle a été inspirée, mais 2000 ans d'histoire représentent des fois des défis. Les copistes devaient travailler dans des conditions des fois très difficiles. Et il peut avoir glissé des erreurs dans le manuscrit. À nous de maintenant réfléchir et utiliser. Paul nous appelle à utiliser notre bon sens, ne pas être troublé. Et donc, dans ces questions-là, c'est mon appel encore ce matin, vous avez un bon sens, vous avez les mêmes critères qui s'appliquent à des fake news aujourd'hui, peuvent être appliqués à la Bible pour que votre foi ne soit pas déstabilisée. Alors, deux raisons principales à croire que la Bible n'est pas un livre de fake news, ce serait la quantité et la qualité des manuscrits que nous avons en notre possession, et ensuite la quantité et la qualité des témoins oculaires que nous trouvons dans la Bible elle-même. Je vais vous parler de ces deux choses ce matin. Tout d'abord, la qualité et la quantité des manuscrits. C'est vrai, nous n'avons pas les originaux. Nous n'avons que des copies des originaux, et plutôt des copies des originaux. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de relever le nombre que nous avons, donc les manuscrits grecs, le Nouveau Testament a été écrit en grec, et donc les manuscrits grecs du Nouveau Testament se comptent dans les milliers, donc à peu près entre 5500 et 5800 manuscrits de tailles différentes. Parfois c'est un tout petit extrait, parfois c'est ce qu'on appelle un codex, un livre avec un grand nombre de livres de la Bible. Donc ça c'est déjà beaucoup. À cela s'ajoutent des manuscrits en latin, parce que la Bible a rapidement été traduite en latin, c'était la langue de l'Empire romain de l'époque. Et là, on compte plus de 10 000 manuscrits en latin. À cela s'ajoutent des manuscrits dans d'autres langues, c'est déjà assez rapidement traduit en syriaque, en arabe, tout ça. Donc là, il compte entre 5 000 et 10 000 manuscrits. Donc c'est déjà énorme. On pourrait effacer tout ça et ensuite, quand même reconstituer le texte biblique à partir des citations des écrits des pères de l'Église. Donc, c'est vrai que si vous écoutez des pasteurs, des prédicateurs, et vous écoutez leurs messages de prédication, vous pouvez avoir le contenu du texte biblique. Donc, il suffit de regarder dans ces textes, et là, il y a plus d'un million de citations. Donc, avec tout ça, c'est très intéressant de pouvoir regrouper et elle se pose la question, quel était le texte d'origine? Et c'est là où, effectivement, le travail devient intéressant. On prend tous ces manuscrits-là, on met ensemble et on compare, et on essaie d'arriver à ce qu'on pense être ce que les apôtres auraient écrit. Alors, il faut savoir que le Nouveau Testament grec contient 140 000 mots. D'accord? 140 000 mots, le Nouveau Testament. Combien dans tous ces manuscrits, combien dans les manuscrits grecs, combien il y a de variantes, des différences entre tel manuscrit et un autre manuscrit? Combien de variantes? Eh bien, il y a 400 000, donc 140 000 mots et 400 000 variantes entre les textes. Alors, les détracteurs sautent sur ce chiffre pour dire, vous voyez, il y a plus de variantes que de mots, donc impossible de connaître le texte d'origine. Voilà. Le garagiste a réparé le pot d'échappement, n'a rien à voir avec le gâteau d'anniversaire qui était excellent, parce que tout a été modifié, quasiment chaque lettre, et donc c'est ce que nous auriez ici. Mais ces affirmations ressemblent plus à une tempête dans un verre d'eau qu'à une crise dramatique pour notre foi, pour votre foi. En regardant ces variantes de plus près, en réalité, 99% d'entre elles ne changent nullement le sens du texte. C'est-à-dire les variantes ne sont même pas traduisibles. Par exemple, le grec va fonctionner avec ou sans un article que le français va même pas respecter. Ou bien, il y a une faute d'orthographe qu'on arrive à repérer. D'ailleurs, qui a relevé la faute d'orthographe, hein? Donc, manuscrit s'appelle pas comme ça. Oups. J'ai fait exprès de mettre une faute d'orthographe pour voir si quelqu'un voulait abandonner sa foi chrétienne. Mais non, vous l'avez lu, votre cerveau l'a compris. Manuscrit, on va le corriger. Donc, manuscrit, beaucoup de... Donc, voilà, quand on enlève ce genre de correction, déjà, beaucoup de variantes disparaissent. Il y a d'autres variantes qui sont faciles à écarter. parce qu'elles ne sont pas, ce qu'ils appellent, sont pas viables. Un exemple serait, on trouve un seul manuscrit qui date du XIIIe siècle qui utilise un mot à la place de tous les autres manuscrits, un autre mot. Mais puisque c'est tardif, puisque c'est une exception, et parfois le mot n'a aucun sens, donc on dit, ah, c'était juste encore une erreur de copiste qui travaillait ce jour-là sans sa bougie, sans le chauffage, et voilà. Reste donc environ 1% qui pourrait impacter réellement le sens d'un verset. Donc un exemple, par exemple, 1 Jean 1,4. On a des manuscrits dans les deux camps, donc je vous laisse décider ce qu'est l'original. Le NEG, par exemple, le second, dit « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Darby a traduit d'après un autre manuscrit « Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. » Donc, est-ce que c'est la joie des apôtres en écrivant ces choses qui est important? Est-ce que c'est votre joie qui recevait la lettre qui était importante? Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Et le sens change un peu quand même. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'abandonner notre foi chrétienne parce que les deux sont intéressants. Les deux peuvent être vrais. C'était une joie pour les apôtres d'écrire ces vérités et c'est une joie pour nous de les recevoir. Bart Ehrman lui-même reconnaît que malgré toutes ces variantes sur lesquelles il met l'accent, il dit que c'est quand même vrai que les croyances essentielles de la foi chrétienne ne sont pas affectées par les variantes textuelles des manuscrits du Nouveau Testament. Un qui est intéressant, une variante intéressante, c'est le nombre de la bête, vous avez entendu, le 666. Dans un manuscrit qui est dans la Bibliothèque nationale de Paris, qui est fiable, qui est intéressant, qui remonte loin, là c'est 616. Alors il y a un débat, est-ce que c'est 666 ou 616? 666, ça rime un peu mieux, on peut avoir le débat, mais il y a aucun... Ça ne va pas changer votre vie, je pense. Il n'y a aucune église, mais le chiffre de la bête dans la confession de foi, ça n'impacte pas notre foi chrétienne. Donc, ce 1% qui reste de variantes viables n'affecte nullement notre foi. Et la réalité, c'est que souvent on dit avec le temps, on s'éloigne de plus en plus du texte d'origine, mais la réalité est contraire. Plus qu'il y a de manuscrits à notre disposition, plus qu'il y a une étude intéressante de la part des érudits, même aujourd'hui numérisée pour que le monde entier puisse consulter, avec le temps, en fait, la réalité, c'est que nous ne nous éloignons pas du texte d'origine, au contraire, nous nous en rapprochons. C'est-à-dire les éditions de la Bible que nous avons aujourd'hui sont certainement plus fiables que celles qui étaient traduites à l'époque de la Réforme, où ils n'avaient que 8 manuscrits, par exemple, à leur disposition. Même s'il n'y a pas grand-chose qui a changé, tel ou tel mot est certainement plus fiable parce qu'on a plus de manuscrits. Donc avec le temps qui avance, notre confiance dans le texte d'origine se renforce au lieu de s'éloigner. Donc c'est le contraire du téléphone arabe, plus que c'est transmis dans le temps, plus ça varie. Mais ici, grâce au nombre de manuscrits que nous avons, c'est le contraire. Et je rappelle juste que la quantité des manuscrits du texte biblique est... énorme par rapport aux autres textes de l'Antiquité, de l'histoire. Les spécialistes disent, et même il y a un côté gênant des érudits bibliques, parce qu'eux, ils disposent de 5000 pour le Nouveau Testament, alors que quelqu'un qui étudie César, tout ça, ils vont avoir 2 ou 3 ou 4 et pas en très bonne qualité. C'est comme si on organisait un match amical entre les clubs des foot des petits des villages et le PSG débarque. Donc les manuscrits bibliques, c'est même il y a pas de comparaison. Si vous arrivez à la conclusion que le texte de la Bible n'est pas fiable, n'est pas celui des premiers chrétiens, soyez cohérent et il faut remettre en question toute l'histoire de l'Antiquité médiévale, tout ce que vous étudiez à l'école aussi. Donc ça, c'est la quantité des manuscrits. Parlons de la qualité des manuscrits, notamment dans leur ancienneté. Par exemple, ce papyrus, il donne des noms. Donc ça s'appelle le P52, papyrus 52. a une histoire intéressante. C'est un extrait de l'Évangile selon Jean, trouvé en 1935, donc à peu près 100 ans. Et il a envoyé, et indépendamment, plusieurs spécialistes l'ont daté du début 2e siècle, ou fin, carrément fin 1er siècle. Alors, c'était écrit recto verso, donc ils ont facilement trouvé le texte qu'il s'agit. Donc, c'est Jean 18 d'un côté, Jean 19 de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont daté de manière très ancienne. Fin 1er siècle, début 2e siècle. Ce qui montrait qu'ils l'ont trouvé en Égypte. Donc, ça montre que l'évangile de Jean circulait dans la région jusqu'en Égypte et qu'on a une copie. Donc, on a une copie de l'original déjà fin 1er siècle, début 2e siècle. Et tout cela mettait à mal beaucoup d'idées qui circulaient en Europe à l'époque quand il en trouvait. Selon un certain théologien allemand du 19e siècle qui s'appelle Ferdinand Bohr, lui, influencé par le philosophe Hegel, il suivait, vous savez, vous étudiez ça à l'école, il y a thèse, antithèse et synthèse. Vous connaissez ça? Thèse, antithèse, synthèse. Donc, lui, il a appliqué cette idée au texte biblique et lui dit, là, il y a l'école de la pensée, l'école de Pierre, c'est la thèse. Ensuite, il y a Paul, c'est l'antithèse, et Jean serait la synthèse. Donc, il disait que voilà, Pierre et Paul n'étaient pas d'accord, mais Jean a trouvé une manière de les harmoniser. Mais forcément, c'est plutôt, c'est pas Jean lui-même, c'est une école de pensée. Donc, ça a été écrit bien plus tard. Vers la fin du 2e siècle, Jean aurait été écrit bien plus tard pour que le temps, que le thèse et l'antithèse et la synthèse apparaissent. Mais là, on a un manuscrit qui date du fin 1er siècle. Donc, de telles théories tombent à l'eau. D'autres, certaines diraient, par exemple, que la résurrection ou la divinité de Christ serait du fake news, une théorie complotiste inventée par Constantin au Concile de Nicée. Donc, le Concile de Nicée, c'est en 325. Et qu'ils auraient inventé la divinité de Christ, ou l'idée de la résurrection, pour fédérer l'Empire, pour renforcer le pouvoir politique. Mais là, vous avez le papyrus 66, qui est un manuscrit presque complet de Jean, et qui datait aux alentours de 200. Donc 200 bien avant le Constantin et le Concile de Nicée. Et là, je sais que la lumière est mal, mais... Vous lisez certainement, vous savez lire le grec, au commencement était la parole de Dieu, et la parole était Dieu. C'est là-dedans. Alors reste ensuite de savoir quel manuscrit, avec il y avait des manuscrits de la Bible, des textes bibliques, mais bien sûr il y avait d'autres. L'apôtre Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, ne vous laissez pas troubler par une autre lettre qui viendrait de moi. Donc, il y avait les évangiles, des épîtres, mais il y avait aussi des pseudo-évangiles, des pseudo-épîtres, c'est-à-dire des fausses lettres qui pouvaient venir des faux apôtres ou des ceux qui avaient d'autres idées en tête, des idées que nous appelons hérésies, mais ils voulaient avancer autre chose. Donc, reste la question de savoir quel manuscrit, quel livre est-ce qu'on va inclure dans la Bible, on va reconnaître comme la parole de Dieu. Et donc, je prends maintenant quelques instants pour rappeler l'histoire, la composition du canon biblique. Le canon, ça veut dire un peu la règle pour laquelle on va juger si un livre est à mettre dans la Bible ou pas. Donc, vous avez vu que déjà à l'époque de Paul, il y avait des fake news, il y avait des fausses lettres, des faux évangiles. Et donc, Paul appelle les chrétiens à utiliser du bon sens, du discernement, à ne pas se laisser séduire. Et donc, déjà là, nous avons un peu un mandat du discernement, du tri, d'examiner les choses. Et c'est vraiment ce que les églises et les chrétiens des premiers siècles vont faire pour arriver rapidement à un consensus unanime. Donc, un peu le processus et dans les traces historiques, nous avons déjà en 180, donc 100 ans après les apôtres, nous avons Irénée de Lyon, c'est un évêque, un pasteur de Lyon, et lui devait gérer les hérésies des groupes qui sortaient d'autres idées, d'autres évangiles, et donc lui, il va défendre la foi chrétienne, et dans ses écrits, nous trouvons déjà cette affirmation qui dit qu'il y a 4 évangiles et que 4 évangiles. Donc ça, c'est déjà, l'Église commence à reconnaître qu'il n'y a que 4 évangiles en 180 après Jésus-Christ. À peu près en même temps, plus tard, un archéologue italien du nom de Muratori va trouver un fragment qui vont dater de 180 à 200, où il a la liste de tous les livres du Nouveau Testament que nous avons, sauf quatre. Dans sa liste, il manque Jacques, Hébreux et 1 et 2 Pierre. Et sa liste va inclure deux autres quand même, l'Apocalypse de Pierre et la Sagesse de Salomon. Donc déjà, on commence à voir apparaître le Nouveau Testament tel que nous avons. En 230, Origène, qui est un théologien père de l'Église, lui, dans ses écrits, on trouve la liste des 27. Il y en a, chez nous, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. On trouve les 27, mais il met quelques réserves sur Hébreux, Jacques, 2 Pierre, 2 et 3 Jean et Apocalypse, c'est-à-dire des livres qui ont été écrits quand même plus tardivement. Mais le temps passe et en 367, Athanase, c'est un évêque, un pasteur à Alexandrie, dans sa lettre pascale, sa lettre festive, le jour de Pâques, il écrivait une lettre chaque année et dans 367, il donne la liste complète en écartant tous les autres. Et cette liste n'a pas bougé depuis. Donc ce qui est intéressant, c'est que assez rapide, ça a pris du temps, donc effectivement, on va pas avancer avec une certitude aveugle et naïve sur la manière que la Bible est arrivée. Elle n'est pas descendue du ciel toute faite, mais avec un bon sens, avec un discernement, on voit que l'Église a réfléchi, a appliqué les critères pour savoir quel livre reconnaître, quel livre ne pas reconnaître. Et il y a rapidement une grande unanimité parmi toutes les églises de l'Empire romain. Déjà, ok, voilà les livres que nous reconnaissons comme étant le fruit des apôtres inspirés. Donc tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle les preuves externes. Quand on regarde l'histoire, l'archéologie, tout ça appuie ce que je suis en train de dire ce matin, que la Bible n'est pas un livre de fake news. Mais il y a aussi des preuves internes quand on regarde à l'intérieur des textes bibliques. Le texte lui-même milite en faveur d'un livre qui ne serait pas un fake news, pas une modification dans le temps, mais le fruit des témoins oculaires. Donc ça, je vais parler de la quantité et la qualité des témoins oculaires que nous avons dans les textes bibliques. Je rappelle que toute la Bible se centre autour de la personne de Jésus-Christ. Ce que racontent les évangiles, si on peut faire confiance à Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, la façon dont il est mort, la façon dont il est ressuscité, si on a confiance à cela, eh bien, ensuite, le reste se met en place assez facilement parce qu'on peut adopter la même attitude qu'avait Jésus lui-même concernant l'Ancien Testament et les textes bibliques. Donc c'est pour ça que souvent le débat se concentre autour des évangiles de la personne de Jésus, autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, parce que tout tient là. Alors moi, j'ai trouvé intéressant, je suis allé sur Google et j'ai juste tapé « Comment reconnaître un Alors, voici le conseil d'un site que j'ai trouvé, un des premiers. Ils ont dit, premièrement, observer les détails. Je crois qu'on est en... Le micro, ça va? Ou... Vous me dites. Hein. Ils ont dit, observer les détails. Ensuite, vérifier qu'il s'agit d'une source fiable. Ensuite, privilégier les sources d'informations reconnues. Ensuite, varier les sources d'informations. Et ensuite, décrypter les images. Donc ça, c'est un conseil pour... reconnaître le fake news aujourd'hui. Alors, c'est pas mal. Et on peut l'appliquer à la Bible. Alors déjà, les sources fiables et les sources reconnues, c'est pour ça que Jésus a fonctionné avec des apôtres. Le mot apôtre est là pour donner quelque chose de fiable et de reconnu. Donc déjà, le Nouveau Testament, on va être sûr que c'est écrit par un apôtre ou recueilli ou un témoignage reconnu auprès d'un apôtre, comme l'évangile de Luc ou Marc, ce n'étaient pas des apôtres, mais ils étaient très proches des apôtres. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vu Jésus et qui a vécu avec Jésus, qui l'a côtoyé, qui l'a vu ressusciter. Les évangiles sont remplis avec pas des citations comme nous avons l'habitude, des notes en bas de page, mais les évangiles sont remplis avec des noms des personnes ou et des personnes qu'on pouvait interroger pour savoir si ce qu'on dit est vrai. Par exemple, Paul, c'est un apôtre un peu à part, mais lui-même a vu le Seigneur ressuscité. Et dans son écrit aux Corinthiens, il fait appel à 500 témoins de la résurrection et il ajoute cette précision, dont la plupart sont encore vivants. Quelques-uns sont morts. Donc, il se mouille en quelque sorte en disant, moi, je connais 500 témoins de la résurrection, plusieurs sont vivants, vous pouvez aller les consulter. Donc, des sources fiables et reconnues, des personnes qui ont vu et qui ont vécu auprès de Jésus-Christ, ce qui distingue vraiment les évangiles de beaucoup de pseudo des faux évangiles qui ont été écrits 300 ans plus tard, pas sur place, mais qui émanaient de Rome ou de Paris. Donc on est loin dans le temps et on est loin géographiquement des faits qui sont rapportés. Donc déjà des sources fiables et reconnues, on va insister sur la présence d'un témoin oculaire comme un apôtre. Varier les sources d'informations. Ben justement, Dieu nous a donné 4 évangiles, ce qui est intéressant. Et ces 4 évangiles ne sont pas des copies-collées. Si vous êtes prof et que vous donnez un examen et vous ramassez des copies, et 4 ou 5, c'est exactement la même chose. Même si c'est juste, vous dites un, exactement la même chose. Parfois c'est faux et là, tout le monde a triché. En plus, c'est trompé. Des fois, c'est juste, mais là, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas ce que nous avons dans les évangiles. Nous avons 4 points de vue différents, parfois avec des différences. Alors la question se pose, que faire des contradictions apparentes dans les évangiles? Bar Ehrman, il aime bien cet exemple. On peut dire, vous voyez, genre, on ne peut pas vraiment faire confiance au texte biblique qui a l'histoire de la guérison de la fille de Jairus. Donc c'est rapporté 3 fois, Matthieu, Marc et Luc. Et en Matthieu, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Marc 5, Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et plus tard, les messagers viennent lui dire, « Elle est morte. » Donc, il dit, vous voyez, c'est quand même différent. Dans un cas, elle est déjà morte. Dans l'autre cas, elle n'est pas encore morte. Donc, si on ne peut pas faire confiance aux petits détails comme ça, les grandes questions, n'en parlons pas. Bon sens, ne pas se laisser séduire. Donc, c'est là une réflexion, parfois une réflexion dans la langue. Est-ce que le grec laisse entendre? C'est vrai que dans un des versets, le texte littéralement, ma fille a la mort sur elle, voilà, ma fille se meurt. Bon, ça peut aller dans les deux sens. Il y a aussi un choix de rédacteur. Matthieu peut décider que lui, il ne va pas inclure la partie sur les messagers pour mettre l'accent sur la résurrection. Et donc là, on n'est pas dans une attestation médicale du date et de l'heure du décès exact, mais c'est pour transmettre l'histoire. Donc ça, il y a des fois des réflexions linguistiques, des réflexions théologiques. En général, ça, on arrive à trouver une solution qui laisse harmoniser les deux. Et en tout cas, qui ne chamboule pas notre foi, sachant qu'après Jésus va ressusciter la fille, ce qui est encore parfois plus difficile à croire. Mais les évangiles rapportent cette histoire parfois de façon différente, de manière différente, pour nous enseigner des choses différentes chez chacun. Donc, presque heureusement, nous avons des sources variées. Ensuite, observer les détails, c'était souvent le premier. Quelqu'un disait, un fake news, si tout est écrit en majuscule avec beaucoup de points d'exclamation et plein de couleurs, là, c'est peut-être un fake news. On savait que le Nouveau Testament est écrit entièrement en majuscule. Le grec d'origine, entièrement en majuscule, mais c'est pas pour autant que c'est un fake news. Ils n'avaient pas la ponctuation, donc il n'y a pas les points d'exclamation, ça va. Mais en fait, il y a beaucoup de détails dans les évangiles qui, comme dit le chercheur Peter Williams, il a repéré la grande quantité des détails dans les évangiles et il arrive à la conclusion que oui, ce sont des écrits que seul un témoin oculaire pourrait inclure. Donc je passe rapidement parce qu'on arrive à la fin, mais il donne l'exemple de l'usage des prénoms. Alors je ne vais pas m'étaler sur ce tableau, mais il y a toute une réflexion sur la fréquence des prénoms, c'est-à-dire à chaque époque et dans chaque culture, certains prénoms reviennent plus souvent que d'autres. Dans notre église, les JP, il y en a. Il y a moins de Réobot. Réobot, j'aime bien mon frère Réobot, mais c'est un prénom moins connu, moins répandu. Alors, il étudie les évangiles et puis toutes les sources extra-bibliques qui viennent de cette époque, de cet endroit, et il trouve que c'est intéressant, c'est quand même, il y a la même, l'usage et les fréquences des prénoms, c'est les mêmes, et c'est pour ça que les Simons, qui sont un des prénoms le plus commun à l'époque biblique, peut-être pas aujourd'hui, hein. J'ai un Siméon, il n'y a pas beaucoup dans l'Église, mais à l'époque, les Siméons étaient partout. C'est pour ça que les Simons et les Siméons dans la Bible sont souvent précisés, Simon le pharisien, Simon appelé Céphas ou Pierre, parce qu'on va distinguer les prénoms très connus, alors que d'autres moins connus ne sont pas distingués. Et il trouve qu'il y a la même fréquence des prénoms dans les textes bibliques que dans les textes non bibliques. Ça, il faut réussir. Si vous inventez une histoire 300 ans plus tard, à des milliers de kilomètres dans un autre pays, il faut le savoir, sans Internet. Aujourd'hui, Google, quel est le prénom de fille le plus typique de nos jours? Jade, ou je ne sais pas, ça, vous pouvez écrire une histoire. Mais sans ça, c'est... Donc ce genre de détails est impressionnant. Ça, c'est... Tout ça, c'est... Dans les évangiles, Luc, par exemple, Luc lui-même dit au début de son évangile, je fais des recherches exactes, et Luc va mettre beaucoup de détails. Luc a noté avec précision les temps de navigation par rapport à la distance vers les ports, les facteurs météorologiques pertinents. Il a correctement nommé les villages obscurs. Il a utilisé des étiquettes correctes pour décrire des fonctionnaires locaux, malgré les différences complexes entre les régions. Le gouverneur de Chypre était un proconsul, tandis que les gouverneurs de Philippe étaient appelés des magistrats, tandis qu'ils étaient appelés polytarques à Thessalonique, tandis qu'ils sont appelés greffiers à Éphèse. Il identifie géographiquement 32 pays, 54 villes et 9 îles, y compris celles qui ont été confondues par d'autres historiens séculiers de l'époque. Donc, il y a vraiment, si vous cherchez les détails et vous creusez, comme vous faites bien de faire, lorsqu'il y a une info qui pourrait être vraie ou faux, eh bien, les évangiles vous donnent beaucoup. Et enfin, décrypter les images. C'est vrai que dans les fake news, en passant souvent par les images truquées, il y a souvent quelque chose qui manipule nos peurs, qui flatte notre ego, qui renforce nos préjugés pour exploiter des gens. Hein. Pourquoi les gens balancent des fake news? C'est pour souvent exploiter à des fins politiques, des fins financières, des personnes. Et c'est vrai que bien souvent, nous croyons ce que nous avons envie de croire. Donc les fake news aillent dans ce sens, manipuler nos peurs, flatter notre ego. Heureusement, il n'y a pas d'image dans le texte biblique. Ce serait des choses certainement facilement manipulables. Donc c'est quand même un texte. Ce qui change par rapport à un téléphone arabe, par exemple, c'est si tout le monde devait écrire sa copie, ça déjà changerait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'image dans le texte biblique, il n'y a pas rien à photoshopper, on est d'accord. Mais je rappelle que le message central, l'image centrale, celle que nous retenons en tant que chrétiens, nous affichons sur le mur, c'est la croix. Alors la croix, est-ce une fake news? Est-ce que c'est une infox? Mais pensez à cette image de la croix et ce message de la croix, à la scène de la croix et ce qu'elle veut dire. Les apôtres sont présentés comme lâches. Le Messie est présenté comme faible, mourant, ensuite encore ressuscité. Si les gens du premier siècle voulaient flatter les égos, voulaient manipuler les peurs, voulaient renforcer les préjugés, ils se sont très mal pris. Ils ont écrit un message qui allait à l'encontre de ce que les gens, à la fois juifs et à la fois grecs, voulaient entendre. Un Messie souffrant, un Messie ressuscité. Mais il en fait. Alors, et nous croyons qu'il en fait parce que, comme ils disent en Actes 80, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire, oui, c'est contre-cultuel, c'est contre-nature, ce que nous présentons, cette croix, cet instrument de toute torture qui devient un salut, mais nous l'avons vu et nous en parlons. Et en fin de compte, l'argument qui dit « nous croyons ce que nous avons envie de croire », il peut s'appliquer aussi à ceux qui rejettent la Bible comme vérité. Que Jésus ne soit pas venu, qu'il ne soit pas mort, qu'on ne sache pas ce qu'il a dit, qu'il ne revienne jamais, quelque part, ça nous arrange aussi à notre époque. Pas besoin de repentance, pas besoin de fléchir le genou devant la croix, devant Jésus le Maître, pas besoin de penser à l'éternité, pas besoin de changer de comportement. Donc, ça aussi, que la Bible soit fausse, ça donne envie, si on ne veut pas changer de vie. Mais nous croyons qu'elle est vraie. Alors oui, méfions-nous des fake news, et surtout celle qui veut vous dire encore ce matin que Dieu n'est pas là, qu'il ne vous parle pas, qu'il ne vous aime pas, qu'il n'a rien fait pour vous sauver. C'est plutôt de ce côté-là, je dirais, que se trouve le fake news. Mais Dieu est là, il est fiable, il vous aime, il peut encore vous sauver. Et puisque sa parole est fiable et qu'il nous parle de Jésus-Christ, nous pouvons savoir encore cette année 2025 que Jésus est là, qu'il est un grand sauveur. Prions. Seigneur, merci pour ta fiabilité, merci pour l'histoire de la Bible, merci pour les manières que tu as préservé ta parole au fil des siècles. Nous voulons que tu nous accordes du bon sens, du discernement, ce travail de réflexion, ne pas avoir peur des questions, ne pas avoir peur de chercher la vérité. Mais nous savons que ceux qui cherchent la vérité, ceux qui l'aiment, vont la trouver. Et encore ce matin, nous venons à Jésus-Christ pour la voir. Et nous trouvons dans ses écrits cette personne de Jésus-Christ qui nous a gagné. Plus encore que des arguments historiques, c'est sa beauté, c'est son amour, c'est sa vie. Qui se voit ici encore aujourd'hui à l'EBTM, qui nous parle aussi. Et nous te prions que nous soyons attachés à ta parole encore cette année 2025. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous allons pouvoir lever pour chanter un dernier chant qui nous rappelle, oui, c'est parce que Jésus nous parle, c'est parce que sa parole est vraie, que nous pouvons, nous, être libres et sauvés. Chantons.